Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous. Heureux de vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. On est vendredi 26 août 2022. Voici les titres. Les Angolais attendent la proclamation des résultats des législatives. Le MPLA est en tête dans ce scrutin serré. Reprise du conflit au Tigré, le gouvernement éthiopien annonce des opérations contre des cibles militaires dans la région contrôlée par les rebelles du TPLF. Visite d'Emmanuel Macron en Algérie, le président français lance un message aux jeunes du continent et prône la recherche de la vérité sur les questions liées à la colonisation. La justice américaine publie un document judiciaire exposant les raisons de la récente perquisition du FBI au domicile de l'ancien président Donald Trump. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En Angola, le dépouillement des bulletins est quasi complet. Les derniers chiffres partiels ont été donnés hier soir. Avec plus de 97% des votes comptabilisés, le MPLA, le parti au pouvoir, est en tête avec 51,07% selon la commission électorale. Jacques Aristide.
Le chef de l'État sortant, João Lourenço, 68 ans, s'est rendu en milieu de journée au siège de son parti dans la capitale Luanda. Le MPLA, Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, a d'ores et déjà revendiqué une majorité confortable sur la base des premiers résultats. Sur la promesse de mener des réformes, lutter contre la pauvreté et enrayer la corruption, l'opposition a gagné du terrain. Inflation galopante, chômage, sécheresse sévère, de nombreux Angolais ont affiché un désir de changement. Adalberto Costa Junior, le leader de l'UNITA, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola, s'est allié à d'autres partis pour élargir sa base. Quelques 14,4 millions d'électeurs ont été appelés à voter avant-hier. 8 partis au total se sont engagés dans cette bataille électorale. Le nouveau président angolais, choisi par suffrage indirect au sein du parti vainqueur aux élections législatives.
Au moins 17 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées, hospitalisées plutôt, après avoir bu de l'alcool frais laté vendu dans un stand en bord de route dans le nord de l'Ouganda. Les victimes, recensées dans la ville d'Arua, avaient consommé un alcool local connu sous le nom de City Five, qui contenait du méthanol, une forme toxique parfois utilisée comme antigel, a indiqué le chef de l'Office national ougandais de normalisation. La police a arrêté 4 suspects, dont le fabricant du gin et le propriétaire du stand, et fermé le site de production de cet alcool. Le chef d'état-major de l'armée ivoirienne se montre rassurant sur le sort des 49 soldats de son pays détenus depuis le 10 juillet au Mali. Le général Assina Doumbia affirme que les négociations se poursuivent en vue de leur libération. Restons soudés et solidaires, a-t-il dit aux familles des militaires détenus et accusés de mercenariat par Bamako. Au nom du président Alassane Ouattara, il a remis à chacune de ces familles une aide de 500 000 francs CFA. La compagnie canadienne Global Atomic Corporation va construire une mine de production d'uranium en 2023 à Dassa, dans une région du nord du Niger, où la société française Orano exploite ce minerai depuis 50 ans. Annonce faite ce vendredi par le ministère nigérien des mines qui précise que la production commencera en 2025. Quelques 121 milliards de francs CFA seront investis dans ce projet, précise le ministère. Au moins 4 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées et 9 blessées ce vendredi dans un bombardement mené par l'aviation éthiopienne sur Mekele, capitale de la région du Tigré. Les hostilités ont repris depuis 2 jours après 5 mois d'accalmie. Le point avec Nani Talani.
L'hôpital Eider de Mekele a reçu 13 patients, parmi lesquels 4 sont décédés à leur arrivée, dont 2 enfants, a indiqué son directeur médical, le docteur Kibrom Ghebreselassie. Peu après l'attaque, le gouvernement fédéral a annoncé dans un communiqué que, même s'il restait entièrement disposé à discuter son condition avec les rebelles, il entendait mener des actions ciblant les forces militaires opposées à la paix. Il a appelé la population vivant au Tigré à se tenir loin des zones où se trouvent l'équipement militaire et les structures d'entraînement rebelles. Ce bombardement intervient deux jours après la reprise de combats entre forces fédérales et rebelles tigréens après 5 mois de trêve. La communauté internationale craint une reprise du conflit à grande échelle et l'anéantissement des maigres espoirs de négociations de paix. De nombreux pays et des organisations appellent depuis mercredi à une cessation des hostilités et à une résolution pacifique du conflit qui dure depuis 21 mois.
Lors d'un point de presse à Alger, au deuxième jour de sa visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a estimé que la recherche de la vérité et de la reconnaissance était plus importante que la repentance sur les questions de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Nathalie Barche.
Cette histoire, on doit la regarder en face, avec courage, avec lucidité, avec vérité, a déclaré Emmanuel Macron devant la presse. Il a expliqué que c'est l'objectif de la commission franco-algérienne d'historiens annoncée à l'issue d'entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune. La commission se penchera sur les premiers temps de la colonisation avec leur dureté, la brutalité de ces événements, mais aussi sur les disparus, a relevé M. Macron. La question des disparus algériens et européens durant la guerre reste un sujet d'interrogation des familles des deux côtés de la Méditerranée. Cette commission sera composée de 5 à 6 historiens français et algériens, avec des premiers travaux d'ici un an, qui seront jalonnés ensuite avec des gestes communs, a précisé M. Macron, soulignant que la France ouvrira la totalité de ses archives et que le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui a confié qu'il en ferait de même. Le président français a insisté sur l'importance de ce travail de mémoire pour permettre aux deux pays d'avancer. L'Algérie demande un travail de recherche sur 132 années de colonisation française, en plus des 7 années de la guerre d'indépendance.
À Madagascar, la Cour de cassation a rejeté ce vendredi la demande de 2 Français reconnus coupables d'avoir voulu assassiner le président de Madagascar, Ange Brajuel. Ils avaient été condamnés de 10 et 20 ans de prison de travaux forcés. La Cour rejette les pourvois, laconiquement déclaré le président de cette Cour lors d'une audience expéditive. L'ONU exprime son inquiétude et demande la levée des mesures restrictives limitant la liberté de mouvement des habitants d'une localité près de Sirte, dans le nord de la Libye, imposée par les forces qui contrôlent la ville. Selon des médias locaux, c'est un groupe armé sous le commandement de l'un des fils du maréchal Haftar qui impose depuis plusieurs jours un siège autour de Ghasr Abu Adi et un couvre-feu total dans cette petite localité située à environ 20 km au sud-est de Sirte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La justice américaine a publié tout à l'heure un document judiciaire exposant les motifs de la récente perquisition du FBI, la police fédérale, au domicile de l'ancien président Donald Trump en Floride. Les détails avec Michel Joseph.
Le juge fédéral Bruce Reinhardt avait imposé au ministère de la Justice de rendre public ce document censé détailler les raisons qui ont conduit à enquêter sur Donald Trump, citant l'intérêt du public pour la perquisition sans précédent au domicile d'un ancien président américain. Mais le magistrat avait accepté la demande du ministère de censurer d'importantes parties du document censé détailler les raisons qui ont poussé le ministère de la Justice à enquêter et qui pourraient révéler l'identité de certains acteurs du dossier. Les autorités ont attendu jusqu'à la dernière minute pour publier le document de 38 pages, peu après 12 heures heure locale, soit 16 heures temps universel, heure limite imposée par le juge Reinhardt. Le 8 août, le FBI avait perquisitionné la résidence de Donald Trump en Floride, saisissant des cartons de documents confidentiels que l'ancien président n'avait pas rendus après avoir quitté la Maison-Blanche malgré de multiples demandes. Donald Trump a longuement fustigé cette perquisition qu'il voit comme l'illustration d'une chasse aux sorcières.
Toujours aux États-Unis, la Maison-Blanche a fustigé ce vendredi les lois qu'elle qualifie d'extrêmes qui entrent en vigueur pour interdire ou limiter très fortement l'avortement dans l'Oklahoma, l'Idaho, le Texas et le Tennessee. Leur entrée en vigueur est la conséquence directe d'une décision de la Cour suprême américaine, désormais très conservatrice. Et puis l'Ukraine a annoncé avoir raccordé à son réseau électrique sa gigantesque centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par les Russes. Kiev avait annoncé hier que la plus grande centrale d'Europe avait été totalement déconnectée du réseau pour la première fois dans son histoire à cause de dommages sur les lignes électriques, accusant les Russes d'en être les auteurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Nathalie Barche.
En Guinée, le ministère de l'économie et des finances a annoncé dans un communiqué que la dette publique a baissé de 185 millions de dollars entre le premier et le deuxième trimestre. Elle est passée de 7 203 milliards de dollars à 7 018 milliards. Ce recul est dû à la gestion prudente de la dette qui privilégie le recours aux emprunts concessionnels en conformité avec les réformes des finances publiques, indique le communiqué. La dette extérieure atteint près de 4 milliards de dollars, soit 56% de la dette totale. En Côte d'Ivoire, le ministère des Ressources animales et halieutiques organise avec la société laitière hollandaise Friesland Campina des formations d'éleveurs sur les techniques modernes de production du lait. Récemment, des sessions de formation se sont tenues à Boaké et Korogo. Les participants ont été formés sur la création et la gestion de coopératives. La Côte d'Ivoire importe plus de 80% de ses besoins en lait. Lors de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'ouvre demain à Tunis, le premier ministre japonais Fumio Kishida annoncera un programme de formation pour 300 000 personnes et des investissements de 9 milliards de dollars dans les infrastructures sur le continent, selon la presse nippone. Le programme concerne notamment les secteurs de l'agriculture et de la santé et 4 milliards de dollars seront consacrés aux énergies renouvelables.
Passons tout de suite au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir. Tour d'Europe des stades pour ce week-end, d'abord en Angleterre, Manchester United pour confirmer, Liverpool pour se lancer.
Revigoré par son premier succès de la saison en championnat contre Liverpool lundi 2-1, Manchester United voudra récidiver lors de la 4e journée de Premier League. Le déplacement des Mancuniers à Southampton, 11e en ouverture de la journée samedi, sera un test pour mesurer la solidité des progrès et celle de la détermination d'Eric Ten Hag, qui s'était passé de Cristiano Ronaldo et Harry Maguire contre Liverpool. Peu après Liverpool qui n'a que 2 points au compteur après 3 rencontres et toujours handicapé par des blessures au milieu, n'aura d'autre choix que de battre le promu Bournemouth à Anfield pour ne pas laisser la tête du classement s'éloigner trop. Le leader Arsenal, qui a pris 9 points sur 9 possibles, espère poursuivre sa belle série lors d'un derby contre Fulham. Chelsea, sèchement battu par Leeds le week-end dernier, essaiera de se relancer contre Leicester, alors que, dans le même temps, Manchester City recevra Crystal Palace.
En Espagne, les yeux sont rivés sur Barcelone.
Dimanche, Barcelone reçoit Valladolid, tandis que le Real Madrid se déplace sur la pelouse du voisin, l'Espagnol Barcelone. Les deux monuments du football espagnol tenteront de confirmer leur grosse prestation offensive du week-end dernier, avec des victoires 4-1 pour la Maison Blanche à Vigo et 4-1 également pour les Catalans sur la pelouse de la Real Sociedad. L'Atlético Madrid, de son côté, tentera de se relever de la claque reçue à domicile le week-end dernier par Villarreal 2-0. Les Colchoneros se déplacent à Valence lundi.
En Italie, la Juve face à la menace Paulo Dybala avec l'AS Rome, son nouveau club.
La Juventus, avec ses blessés dont Pogba, Di Maria, Chiesa et ses attaquants en panne contre la Sampdoria 0-0 lundi, apparaît encore en construction alors qu'arrive à Turin samedi l'AS Rome, amené par un certain Paulo Dybala. Le meneur argentin, délaissé par la vieille dame en juin, a séché ses larmes et depuis ses adieux, ému au tifosi bianconeri. En mai, il sera le danger numéro 1 de la Roma, bien parti avec 2 victoires en 2 matchs, malgré les blessures de Gini, Wijnaldum et Niccolo Zaniolo. Et c'est tout pour l'espoir à Thierry.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Le président français effectue sa première visite en Algérie. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'une page nouvelle qui s'écrit dans la relation bilatérale. Quant à son homologue algérien, Abdelmajed Tebboune, il estime que le voyage offre des perspectives prometteuses pour améliorer un partenariat spécial. Les deux dirigeants ont ainsi voulu sceller la réconciliation entre Paris et Alger après des mois de brouille. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint à Bordeaux l'analyste Djemal Taleb.
Les relations entre l'Algérie et la France sont historiquement très difficiles. Il n'y a pas un chef d'État français, quel qu'il soit, qui ne s'est pas frotté à ces relations, si je peux dire, franco-algériennes. Si vous regardez les chefs d'État français successifs, à commencer depuis Giscard, même Général de Gaulle, mais en tout cas depuis le président Giscard d'Estaing, président Mitterrand, le président Sarkozy, le président Chirac, jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, en passant par François Hollande, vous comprendrez les relations pénibles, difficiles à entretenir entre la France et l'Algérie, où en effet, on marche sur des œufs, on fait attention, on n'est pas capable d'aller au-delà de quelques mots. En tout cas, il y a 2 mots d'ordre qui sont toujours, évidemment, l'empreinte de chaque visite d'un chef d'État français à l'Algérie. Reconnaître le passé, préparer l'avenir. Il est évident que les déclarations importent peu. Et ce qu'il faut juger, bien entendu, avant tout, c'est ce qui va sortir du communiqué final de ce voyage d'Emmanuel Macron, qui, lui, là encore, c'était bien entendu attardé sur 2 points, reconnaître le passé, préparer l'avenir et bien entendu instaurer une relation fiable, forte entre l'Algérie et la France.
Des observateurs sont d'avis que le rejet de la France est palpable dans nombre de ses anciennes colonies en Afrique, comme au Mali. Est-ce dans ce contexte qu'il faut voir cette amélioration des rapports entre Paris et Alger ?
L'Algérie est un maillon essentiel, mais alors absolument essentiel au Sahel. C'est sans doute le pays qui a probablement sous sa tutelle l'une des clés de la sécurité au Sahel. C'est un pays pivot, influent, son poids et son influence se mesurent sur tous les pays du Sahel. Et donc on ne peut pas faire une politique sécuritaire au Sahel, en tout cas une politique française, mais une politique au-delà de la France, mais en tout cas française, sans passer par l'Algérie. Les avions passent par là, le carburant passe par là, la sécurité passe par là, Tadrar des Iforas est frontalier de la Libye, mais de l'Algérie. Et donc, naturellement, le gouvernement français n'est pas capable d'avoir une politique sans cela. Dans la politique du président, évidemment, Macron, aujourd'hui en Algérie, on va sans doute parler de gaz et d'approvisionnement et difficultés avec la Russie, que l'Algérie, sans doute, va essayer de suppléer. Mais la question de l'équilibre au Sahel est évidemment fondamentale. Et cela d'autant que la politique française vis-à-vis du Sahel ces dernières années était médiocre. Je pense que le gouvernement français, le président Macron, mais aussi son ancien ministre étranger et son ministre Afrique ont particulièrement mal géré, très très mal géré, le dossier malien. Il a été un vrai boulet dans la diplomatie française ces dernières années. Je ne parle pas de celui de la RCA qui est encore un autre problème. Mais je pense en tout cas que la France s'est plutôt mélangé les pieds dans sa politique africaine, notamment dans le pays du Sahel ces dernières années. Le Mali en exemple le plus flagrant. Le poids de l'Algérie qui est fondamental, qui est important, va sans doute être déterminant dans les choix que le gouvernement français, et notamment le président Macron, va devoir faire les prochains mois ou les prochaines années.
C'était l'analyste Djemal Taleb, joint à Bordeaux, en France. Au Tchad, les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent à N'Djamena. Au 4e jour, le débat tourne toujours autour de l'amendement de l'avant-projet de règlement intérieur. Une rencontre dite inclusive, mais sans l'opposition au régime de transition. André Kodmajingar fait le point de N'Djamena.
Le préambule et le titre 4 du règlement intérieur, axé sur les critères et modalités de la mise en place des membres du Présidium, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La désignation des 21 membres du présidium doit tenir compte de la diversité et de la dimension genre. Le débat est houleux entre les membres du comité d'organisation et les participants.
S'il vous plaît, madame.
S'il vous plaît, madame.
Madame, madame.
S'il vous plaît.
On vous a donné donc
la
possibilité d'intervenir sur le préambule.
Non,
si vous avez des observations par rapport au préambule, vous avez la parole.
Il faut patienter, il faut que
la parole vous est retirée, madame.
Empêchée par les membres du comité d'organisation de continuer, mais madame Zainaba Hassan Younous ne se décourage pas.
Notre présence ici, dans la salle, c'est pour apporter des solutions à nos problèmes pour l'intérêt général de la nation. Faisons un travail sincère, franc et sérieux. La période des mensonges est déjà terminée.
Selon le règlement intérieur, les résolutions et recommandations de cette rencontre sont prises par consensus. En cas de non-consensus, les participants procéderont au vote sans préciser la nature. Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition, propose.
Pour qu'un président puisse vraiment gérer correctement le débat, il faut qu'il sache à l'avance comment, dans quelle situation, est-ce que le vote va se faire. Donc je précise. En cas de non-consensus, il peut être procédé au vote à main levée, tout simplement.
Une proposition qui a été suivie par un tonnerre d'applaudissements. Réaction du président du comité d'organisation, Achek Ibni Oumar.
Il s'agit de discuter du sort du Tchad. Nous sommes un millier et quelques, mais il y a 16 millions de Tchadiens. Nous parlons en leur nom. Donc un peu de sérieux. Évitons les cris, les youyou et les mouvements de ce genre un peu enfantin.
En faisant une telle proposition, M. Haroun Kabadi, cacique de l'ancien régime, s'est rassuré de sa majorité mécanique dans la salle, estime le politico-militaire. Pour Mahamat Egré, membre de l'UFR, Haroun Kabadi, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, n'a pas assumé sa responsabilité après la mort du président Déby.
M. Kabadi, qui est ici présent, normalement, il l'expliquait de cette salle. S'il avait assumé ses responsabilités, on n'en serait pas là. Nous, le politico-militaire, si on garde le silence, c'est par respect. Vous savez déjà qu'il y a une partie qui a 80% ou 60% de voix de vote dans cette salle. Moi, je propose qu'on fasse un quota par corporation ou bien par parti pour la mise en place du président de ce dialogue.
Les travaux se poursuivent sans l'opposition du régime de transition. Entre-temps, le groupe de sages multiplie les contacts avec les partisans du boycott qui ne veulent pas aller à cette messe politique tête baissée. Les membres du comité d'organisation rassurent que le règlement intérieur qui va déterminer les modalités d'organisation, fonctionnement et déroulement des débats sera probablement adopté ce vendredi. André Kordouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, la rentrée scolaire est prévue dans quelques jours. En début de semaine, le ministre de l'Éducation a voulu rassurer sur l'augmentation de la prime des enseignants dans le cadre du programme de la gratuité de l'éducation de base, mais des doutes persistent chez certains enseignants. Depuis Goma, la correspondance de Zanem Netizaidi.
Depuis la mise en application du programme de la gratuité de l'enseignement des bases par le président Félix-Antoine Tshisekedi, des mouvements de grève répétitifs ont été observés dans des écoles publiques. L'éducation des enfants est à mise en péril. C'est plein Madame Julienne Kassilamo, présidente de l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques de Goma.
Beaucoup de parents se posent la question, est-ce que ça valait la peine que le gouvernement puisse déclarer la gratuité? Parce que ce sont les enfants qui sont devenus victimes de la gratuité. Quand un enfant subit des grèves à répétition des enseignants, quelque part, l'enfant est traumatisé. À travers même les questions que nous, parents, nous posons à nos enfants, nous voyons que même le niveau de nos enfants a baissé.
Pour répondre au mouvement des grèves des enseignants, le gouvernement a annoncé le 22 août dernier, à travers le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, le dépôt à la banque des 67% de la prime destinée à la gratuité, une déclaration mise en doute par le président du syndicat des enseignants des écoles protestantes du Nord Kivu, patient Rafiki.
La joie sera grande pour nous que lorsque les enseignants nous rassureront qu'ils ont cet argent dans leur poche. Jusque-là, c'est une déclaration, jusque-là, c'est une rassurance qu'on vient de nous donner, mais nous attendons le palpable dans la poche de l'enseignant. Mais d'emblée, nous disons merci d'avance parce que la vision commence à se concrétiser petit à petit pour rendre la gratuité effective.
Le calendrier des activités scolaires prévoit l'ouverture pour le 5 septembre, mais des menaces de grève planent encore. Chama Voubala Innocent est le représentant de la force syndicale nationale Fosinat dans le Nord Kivu.
Les 67% de la prime de la gratuité est déjà dans des comptes au niveau des banques. Et donc nous osons croire que comme le gouvernement a fait le deuxième pas par rapport à la prime de la gratuité, nous ne pouvons pas laisser les enfants chômer parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on est en train de commencer avec des grèves et là ça ne profite pas à nos enfants. C'est pour cette raison que nous pouvons appeler aux camarades enseignants de cette fois mettre de l'eau dans les vins et de rentrer à l'école en attendant le mois d'octobre pour que nous puissions voir la majoration là de la compte du deuxième palier.
Les deux dernières années à Goma, beaucoup de parents ont jugé bon de faire inscrire leurs enfants dans des écoles privées où ils paieront et même les frais, craignant de rater dans les écoles publiques où les mouvements de grève des enseignants sont devenus presque récurrents. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Côte d'Ivoire, pour lutter contre la déforestation et la désertification, les agriculteurs optent pour un nouveau concept, la culture hors sol. Comment se fait ce type de culture et quels en sont les avantages? Le reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowes.
Au lycée agricole de Bengerville, dans la banlieue d'Abidjan, les étudiants sont à l'œuvre dans des serres sous forme de préau. Ils écoutent religieusement les consignes de leur formateur du jour, Aboulaye Sanogo, technicien agricole.
Bonjour. Rentrez dans la serre, chacun suit sa parcelle et vous commencez déjà le tutorage.
Ce module de formation s'appelle la culture hors sol, qui consiste à cultiver des végétaux dans des contenus naturels autres que la terre. La première étape de ce cours est le palissage. L'étudiante Marie-Léonce Conan explique.
Ils sont en train de faire les côtes pour faire le palissage, pour permettre à la tomate de grandir.
Cadognon Fanta, après la rousse, l'usage des laitues se dirige vers le compartiment des piments.
Le feuillage consiste à enlever les vieilles feuilles au niveau des plantes et ça permet à la plante d'avoir assez d'éléments nutritifs pour augmenter sa productivité.
Les innovations utilisées dans la culture hors sol présentent de nombreux avantages, explique Aboulaye Sanogo, formateur au lycée agricole de Bengerville.
Vous avez la possibilité de cultiver toute l'année. Alors, sous serre, nous avons la possibilité de produire en quantité et en qualité sur une superficie réduite.
Non loin de là, dans le village de Santé-Bengerville, chez des particuliers, Catherine Kondou, Suzanne Amondi et Germaine Touré exploitent une superficie de 1600 mètres carrés. Catherine explique leur travail.
Ici, nous cultivons les laitues, nous cultivons aussi les concombres et haricots kilomètres, de l'aubergine, du gombo asiatique. Nous avons aussi de la tomate. Nous sommes au nom de 3 femmes, nous avons 2 techniciens qui sont avec nous.
Frédéric Kwame est l'un des techniciens agricoles qui accompagne ces femmes.
La phase de la transplantation, c'est faire de la pépinière dans les pots, bien dans les seaux, bien dans les sacs.
Stéphane Yao, de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, souligne le caractère moins pénible de la culture hors sol.
C'est encore plus avantageux que de prendre un espace, nettoyer, creuser, tout ça, c'est encore encombrant. On a un petit espace qu'on veut rentabiliser. C'est pourquoi on a opté pour la culture hors sol.
Et c'est à Georges Gorebi Yuan, le superviseur agricole, de relever les types de fibres utilisées.
Dans ce système de culture, il y a 2 types de substrats que les gens utilisent. Il y a les fibres de palmier et puis les fibres de coco. C'est ça qui remplace le sol ici.
Grâce à un projet du gouvernement portant sur une exploitation de 124 000 hectares dans 6 départements de la Côte d'Ivoire, la culture hors sol va connaître une expansion dans le pays. Il permet de trouver un travail rentable, nourrir avec des produits entièrement bio et en même temps préserver la nature. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
C'est la fin. fin de cette édition. La mise en onde de Michel Joseph, à la présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.